À l'occasion des Journées nationales de l'ingénieur et de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable, l'Université de technologie de Compiègne a organisé 3 conférences pour mettre en lumière des parcours engagés au service de l'ingénierie soutenable. Graphite s'associe à cette démarche en vous proposant de réécouter ou de découvrir en séance de rattrapage l'ensemble de ces conférences. Aujourd'hui, la seconde conférence s'intéresse au logiciel libre. L'engagement associatif d'ingénieurs en faveur des enjeux socio-environnementaux de la technologie, c'est la proposition de l'association Picasoft, représentée par Quentin Duchemin.
Je vais me présenter un petit peu pour commencer. Donc moi, je suis diplômé GI en 2018. Je suis passé par le laboratoire d'informatique de l'UTC et ensuite, je suis plutôt concentré sur les enseignements en GI et aussi des TSH. Je suis membre de Picasoft, donc je parlerai un petit peu plus tard de ce que c'est exactement cet asso. Mais en tout cas, c'est une association qui est à l'origine étudiante, qui milite pour un autre numérique que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et quand je dis numérique, ça concerne tout ce qui est informatisé, tout ce qui passe par des ordinateurs, donc je dirais souvent numérique au cours de cette présentation. Donc merci Valentin pour l'invitation. L'idée de cette semaine, si j'ai bien compris, c'est notamment de montrer des parcours d'étudiants, d'associations, de chercheurs, chercheuses engagées. Moi, mon intention ce midi, c'est de montrer au travers de Picasoft un exemple de redirection de l'ingénierie vers un modèle plus soutenable et plus souhaitable, d'après moi, et peut-être à la fin de cette présentation, d'après vous aussi. Donc je vais commencer par faire un tour d'horizon des enjeux liés au numérique. Donc rien de très technique, mais il faut, je pense, se rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans le monde vis-à-vis du numérique aujourd'hui, avant de discuter d'alternatives. Ensuite, une fois ces bases posées, je parlerai de l'histoire de Picasoft, et puis en quoi est-ce que, de mon point de vue, c'est une asso qui répond à la question de savoir comment incarner de nouvelles manières de faire de l'ingénierie. Et puis je terminerai avec un petit mot sur l'engagement à l'UTC. Donc sur les enjeux du numérique, c'est impossible de tous les citer. Je vais me concentrer sur 4 thématiques. Ça va être la partie un peu déprimante de cette présentation. Et au lieu de dire des grandes généralités, où là il faudrait beaucoup argumenter, mobiliser de concepts, je vais donner des enjeux marquants. Et là, vous allez devoir me croire un petit peu sur parole, mais de mon point de vue, représentatif de la tendance générale. Au niveau de l'environnement, je pense que c'est la partie qui est l'aspect, en tout cas, qui est le mieux médiatisé autour du numérique. On en entend quand même beaucoup parler. Je ne sais pas si vous avez un petit peu quand même des idées de choses comme ça à main levée. C'est quoi le plus gros truc qui vous vient en tête si on parle numérique et environnement ? L'impact des data centers et ouais aussi. Donc effectivement, c'est je pense que c'est un des trucs à la fois en termes de ressources, d'énergie, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, avec pas mal d'estimations autour du CO2. Justement, sur les data centers, un truc plus récent, c'est qu'aux États-Unis, l'émergence du marché de l'intelligence artificielle fait qu'il y a de nouveaux data centers qui vont être construits, mais aussi, vu qu'il y a un besoin, enfin en tout cas, un besoin en quelque sorte, une demande énorme d'énergie qui va être associée à ces data centers, des centrales à charbon ou au gaz qui vont être construites pour alimenter ces data centers. Donc ils relancent un petit peu ce qui devait être en train de se terminer sur les centrales à énergie fossile. Au Chili, Google est très récemment passé en force pour construire un méga data center à $200 millions avec une consommation d'eau qui est vraiment massive, alors que c'est un pays dans lequel la sécheresse frappe de manière inédite depuis plus de 13 ans maintenant. En Birmanie, l'extraction des terres rares nécessaires au numérique, donc à construire tous les circuits imprimés notamment et leurs composants, polluent les rivières et les sols autour de très nombreuses mines, causant au passage des maladies parfois mortelles. Et en fait, c'est la même histoire qu'on retrouve dans toute une suite globale, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Alors justement, pour rebondir un petit peu sur ce qui se passe avec les pays du Sud, plutôt sur la partie des droits humains, et d'une certaine forme de néocolonialisme. C'est probablement ça l'aspect le moins médiatisé du numérique par rapport à l'environnement. En République démocratique du Congo, dans de petites mines à ciel ouvert, 250 000 personnes travaillaient en 2018 comme creuseurs, c'est un titre qu'on porte, pour un revenu compris entre 1 et 2 dollars par jour, et parmi elles, 40 000 enfants. Parfois âgés de seulement 9 ans, souvent pour payer les frais de scolarité, ils travaillent pour extraire du cobalt le week-end, les vacances scolaires, mais aussi avant et après leur journée d'école, avec de nombreux risques pour leur santé, notamment la fibrose pulmonaire, et pour leur sécurité, avec l'effondrement des puits. Donc le cobalt, c'est absolument nécessaire pour toute notre électronique moderne, c'est notamment ce qui entre dans la composition des condensateurs, donc on en est massivement dépendant. On peut refaire pareil cette histoire pour plein d'autres types de mines, mais donc bon, je passe très vite, on pourra y revenir si vous avez des questions à la fin. Au Kenya, on trouve un autre type d'exploitation, qui est plus la délégation du sale boulot des grands, des grandes plateformes du numérique. Donc là, je vous lis un extrait d'article. En fait, je vous lis un extrait d'une lettre ouverte par des travailleurs et des travailleuses au Kenya. Nous effectuons ce travail au prix de notre santé, de nos vies et de nos familles. Ce travail est épuisant sur le plan mental et émotionnel. Nous nettoyons Facebook, TikTok et Instagram pour veiller à ce que ces plateformes importantes ne soient pas inondées de discours haineux et d'incitation à la violence. Nous étiquetons des images et des textes pour former des outils d'IA génératifs pour OpenAI, ceux qui font ChatGPT. Notre travail consiste à regarder des meurtres et des décapitations, des abus et des viols d'enfants, de la pornographie et de la bestialité, souvent pendant plus de 8 heures par jour. Beaucoup d'entre nous font ce travail pour moins de 2 dollars de l'heure. Donc ça, c'est assez représentatif d'une certaine conception du numérique où on va à chaque fois externaliser les points violents, négatifs, destructeurs dans les pays du Sud en offrant du coup cette espèce de confort, de fluidité et de gratuité pour les pays, on va dire, du Nord ou des Nord, j'aurais dû dire des Suds. Mais pour autant, on n'est quand même pas en reste, puisque on est toutes et tous victimes d'une économie qui s'est construite autour des données personnelles. Je pense que ça, vous le savez aussi, le modèle économique des grandes plateformes repose sur la collecte et la vente, directe ou indirecte, de données de leurs utilisateurs et utilisatrices. Alors, le marché autour de la donnée, il est vraiment bien trop complexe pour pouvoir le détailler là en 3 minutes. Mais il faut retenir ceci, le capitalisme de surveillance, donc une notion qui a été un peu popularisée dans le grand public par la chercheuse Shoshana Zuboff, donc qui concerne un peu toute l'économie qui s'est créée justement autour de la donnée et donc de la surveillance, eh bien il ne cherche, comme tout capitalisme, qu'à optimiser son taux de profit. C'est-à-dire que de façon structurelle, tout effet que nous, on pourrait considérer comme négatif du capitalisme de surveillance, en fait, il serait négatif pour le capitalisme de surveillance que s'il diminuait son taux de profit. Tout ce qui ne le diminue pas, à court terme et à moyen terme, en fait, ne va pas rentrer dans sa boussole morale, éthique, puisque c'est vraiment pas le but d'essayer d'avoir une morale. Et on le verra juste après. Ça peut peut-être paraître un peu abstrait, mais je trouve que ça permet de donner un sens à ce qu'il y a eu, ce que j'ai dit avant et ce que j'ai expliqué après, c'est que finalement, c'est un peu hors sujet d'aller voir Google et de leur dire « Oui, mais regardez, ce que vous faites, c'est immoral, c'est violent, c'est destructeur. » C'est vraiment pas des choses qui les intéressent en tant qu'entreprise capitaliste. Alors ça peut paraître un peu simpliste comme analyse, mais au final, En employant cette analyse comme grille de lecture, on arrive à expliquer un certain nombre de choses qui, sinon, semblent juste impensables. Enfin, en tout cas, on tombe un peu des nues, je trouve, en apprenant certaines choses. Donc, au niveau de l'économie de la donnée, on a des plateformes et des applications qui sont toutes optimisées pour essayer d'extorquer un maximum de données aux utilisateurs, et le caractère, on va dire, addictif de certaines plateformes dont on a beaucoup discuté dans l'espace public aujourd'hui, où la polarisation des contenus, d'avoir de plus en plus de contenus très négatifs ou sur les plateformes, en fait, ça va aussi alimenter le phénomène de collecte de données, ça va en générer plus, puisque plus de réactions au contenu polarisant, etc. Donc ça, on peut déjà voir en quoi ça pose vraiment question, notamment pour la vie démocratique de nos pays, si on a du contenu qui est polarisant, qui est mécaniquement mis en avant par les algorithmes. Et je vous donne là quelques datas, pas des datas en fait, quelques anecdotes autour de l'économie de la donnée. On a des documents internes de TikTok qui ont fuité, où ces documents donc montrent que ils ont donné des instructions à ces modérateurs et ces modératrices, donc les mêmes aussi qui voyaient des choses bien plus violentes dont on parlait avant, pour filtrer les vidéos de la page d'accueil d'utilisateurs ou d'utilisatrices jugées trop moches, pauvres ou handicapées. Grindr, une application de rencontre gay, a vendu ses données de localisation indirectement, en fait, à l'Église catholique, qui les a utilisées pour traquer et punir des prêtres qui étaient sur l'application. Pourquoi je dis indirectement ? Parce que quasiment toutes les applications aujourd'hui vendent leurs données à des entreprises spécialisées dans la donnée, les data brokers, vous avez peut-être dû entendre ce terme qui ressort un petit peu ces derniers temps, c'est des courtiers de la donnée, data brokers, et c'est à travers, en fait, sur des places de marché qui sont relativement inconnues du grand public, que s'échangent des informations qui sont souvent dites anonymisées, mais qui en réalité sont pas du tout. En tout cas, c'est très trivial de retomber sur les données de la personne, parce que évidemment, quand on a son adresse, on a beau ne pas avoir son nom, enfin, vous imaginez bien que ça donne quand même un début d'information. Alors, dernière illustration de l'absence de morale autour de ces courtiers de la donnée, qui sont des géants américains la plupart du temps. Plus récemment, on a des data brokers qui se sont illustrés en vendant la liste des personnes qui se rendaient dans les plannings familiaux aux États-Unis, dans un contexte où l'avortement a été criminalisé dans pas mal d'États, comme le Texas. Donc les gouverneurs du Texas pouvaient acheter la liste des personnes allant dans les plannings familiaux, donc pour bien sûr essayer de les traquer et puis de les punir en cas d'avortement. Alors, déjà, on commence, et ce sera la quatrième partie, après on pourra respirer un bon coup. On voit à travers ces exemples à quel point le progressisme parfois affiché par les GAFAM n'est qu'une image de façade. Et en fait, très récemment, peut-être que vous avez suivi, elle est déjà tombée aux États-Unis depuis la réélection de Donald Trump, puisque on a Meta, donc la maison mère de Facebook, Instagram, qui a annoncé supprimer son service de fact-checking, qui a annoncé à travers Mark Zuckerberg aussi vouloir avoir une posture plus masculine dans l'entrepreneuriat et notamment du coup dans la tenue du réseau social. Et qui a immédiatement passé changé les conditions générales d'utilisation pour autoriser à dire des choses comme les femmes sont plus idiotes que les hommes par nature ou les personnes trans ne méritent pas de vivre. Tout porte à croire que c'est pas juste une erreur de casting, parce que Mark Zuckerberg serait vraiment une très méchante personne, mais que c'est aussi un problème structurel lié au modèle économique de ces grandes plateformes. Et donc, les dernières anecdotes vont être autour des liens entre régime autoritaire et GAFAM, grande plateforme du numérique, donc hégémonique, hein, aussi bien dans nos écoles que dans nos vies. Google construit actuellement, dans un projet à plusieurs milliards de dollars, des data centers ultra sécurisés en Israël et notamment pour le compte de l'armée israélienne, et licencie tout simplement tous les employés qui s'opposent publiquement à ce projet. Toujours Google, qui est quand même, dans l'imaginaire collectif, plutôt champion du progressisme, a conçu un moteur de recherche pour la Chine, qui s'appelait Dragonfly, qui prenait en compte la censure, donc qui obéissait à la censure du parti chinois, et qui faisait le lien entre les recherches et un numéro de téléphone, donc permettant de traquer sans difficulté toutes les recherches sur tel ou tel terme qui auraient été faites par telle ou telle personne. Ce prototype, il a été abandonné, mais après un backlash public immense, avec des milliers et des milliers d'employés signataires d'une pétition à Amnesty International, etc. Donc là, où ça commençait peut-être à menacer une partie de son taux de profit. Nokia, qui est un peu moins connu aujourd'hui, parce que bon, on n'a plus trop de téléphones Nokia, mais qui est quand même une entreprise qui continue à prospérer en Europe, a aidé la Russie à surveiller sa population. Là, je vous cite, des documents de projet signés par le personnel de Nokia montraient comment les données et le trafic téléphonique de l'ensemble du coup des installations du pays pouvaient transiter vers Moscou. Et donc, eux, ils dénonçaient l'autoritarisme de la Russie, l'invasion en Ukraine, publiquement, mais ils ont continué à mener ce projet-là jusqu'à son abandon en 2022, où, pareil, pour des raisons d'opinion publique, ça devenait intenable. En Birmanie, après 10 ans de démocratie, l'armée monte un coup d'État et prend le pouvoir début 2021. Donc, il y a des centaines de morts et des milliers de prisonniers. La répression est énorme et des lois sont passées pour autoriser l'accès aux données personnelles de toute la population. Bloquant au passage tous les sites des géants américains. Pourtant, des dizaines d'entreprises occidentales ont vendu des logiciels d'espionnage et d'analyse de données à la dictature militaire, permettant de réprimer tous les opposants à cette dictature. Et l'Union européenne a refusé d'ailleurs l'embargo de ces logiciels espions pour la Birmanie. Et donc, je vais conclure cette partie en disant que cette collusion entre entreprises du numérique et États autoritaires, elle est systémique, je l'ai déjà dit, et surtout, elle a toujours existé. L'exemple le plus marquant, pour moi, originel, c'est celui d'IBM. Je ne sais pas si ça vous dit un truc. Souvent, on le présente comme le premier GAFAM. Donc, aujourd'hui, c'est une énorme entreprise. Elle opère depuis le milieu du XXe siècle, mais aujourd'hui, ils vendent surtout des machines très très puissantes, de l'IA et des systèmes d'exploitation. Mais à l'époque, dans les années 30, IBM développe des machines analogiques qui effectuent des calculs rapidement grâce à des données qui sont entrées sur des cartes perforées. Je pense que vous me voyez venir, les années 30, c'est aussi l'arrivée au pouvoir du régime nazi en Allemagne. Et IBM n'a jamais cessé de renforcer ses partenariats avec le régime nazi. Donc elle aura quand même commencé par vendre des machines, mais y compris lors des appels au boycott à l'international, ils leur ont fourni des machines permettant donc au régime nazi d'effectuer notamment un recensement des populations juives qui était intenable à la main. Et pire, en fait, la branche américaine d'IBM a activement soutenu et même financé ses partenariats avec le régime nazi. Que quand même, on pourrait s'attendre à ce que ce ne soit pas le cas. Donc bon, un peu en filoutant. Hein. Et ça leur a permis d'avoir un monopole sur le marché local, donc avec la branche allemande d'IBM, et notamment d'avoir la permission d'ouvrir des usines. La conclusion, c'est que, comme je l'ai dit, toutes les entreprises du numérique qui aujourd'hui structurent quand même nos vies à travers leur fabrication, soit de téléphones, d'outils qu'on utilise dans la vie de tous les jours pour faire les opérations les plus basiques, on va dire, de ce qui constitue une journée normale d'humain occidental du XXIe siècle, eh bien, il n'y a pas de raison que tout ce que j'ai essayé de montrer à travers ces quatre points s'arrête, parce que c'est inscrit dans la manière dont elles fonctionnent et dont elles ont toujours fonctionné. Et donc, en particulier, si on a besoin d'un numérique alternatif, de mon point de vue, ce n'est pas seulement pour que ces choses-là n'existe plus ou existe moins, en tout cas qu'il y ait une proposition alternative, c'est aussi pour nous protéger de ce qui pourrait arriver dans quelques années, notamment en France, dans le contexte où on a quand même une montée de l'autoritarisme un petit peu partout autour de nous et chez nous. Bon, voilà, donc comme promis, j'ai passé un petit peu plus de temps et je vais sans transition passer à un témoignage un petit peu autour de Picassoft. J'espère que j'ai réussi à vous donner l'intuition qu'il était nécessaire de faire différemment et du coup mieux. Donc Picassoft, comme je l'ai dit, ça, c'est une asso qui a été créée en 2016. À l'origine, c'est un enseignant-chercheur de l'UTC, Stéphane Croza, qui lance une bouteille à la mer, qui veut créer une asso un peu qui porte un numérique alternatif. Donc il lance une bouteille à la mer chez les étudiantes et les étudiants. Il y a une TX qui est lancée, la mayonnaise prend et il y a une quinzaine d'étudiants et d'étudiantes qui s'activent fin 2016 autour de cette question. Alors concrètement, la proposition de Picassoft, dès le début, elle s'est articulée autour de trois pôles, me semble important, sensibiliser, proposer des alternatives et former. Sensibiliser, c'est à travers des conférences, notamment sur les thèmes dont j'ai parlé dans la première partie, à travers une émission qu'on a tenue sur Graphite pendant un moment, et à travers des interventions dans des UV, comme WE01, IS3 ou SI28 en un temps. Et c'est en gros la partie critique du numérique. À côté de ça, du coup en tandem, en fait, on a la proposition d'alternative. Donc c'est l'activité qui est peut-être encore la plus connue aujourd'hui. Ça consiste pour nous à héberger des services web alternatifs à ceux du géant du numérique. Quand je dis service web, je sais pas, par exemple, Google Docs, c'est un service web. Du coup, une alternative à Google Docs, ce serait un service web qui fait la même chose, mais qui n'est pas Google Docs. En gros, c'est ça que j'entends par alternative. Nous, par exemple, on héberge Mattermost, que vous connaissez peut-être. Ouais. Donc encore les pads pour faire de l'édition collaborative de texte. Et en gros, nous, on utilise pas mal la métaphore du maraîchage pour décrire un peu la démarche. Je pense qu'elle peut s'appliquer à plein d'autres démarches engagées à l'UTC. Donc, en gros, comme un maraîcher, nos services, on peut dire qu'ils sont locaux d'une certaine manière. Ils sont hébergés à Compiègne. Dans une certaine mesure, on sait aussi ce qu'il y a dedans. Ça, c'est parce qu'on héberge des logiciels qui sont dits libres. En gros, leur recette de cuisine, le code qui constitue ces logiciels, il est accessible par qui veut. Alors, bien sûr, il faut des compétences techniques, mais comme dans pas mal en tout cas de domaines, pour aller vérifier que les choses sont bien ce qu'on pense qu'elles sont. Pour filer la métaphore, on pourrait dire que c'est sans pesticides, au sens où il n'y a pas de collecte de données ni de vente de données de notre côté. On est une association avec plein de bénévoles et c'est tout. Et en particulier, la petite échelle fait que si jamais des gens chez les étudiants, les assos ou autres ont besoin ou un besoin spécifique, une question ou un problème, ils peuvent nous en parler directement, ce qui change vraiment le rapport à des outils qu'on peut avoir, hein, puisque c'est impossible d'aller voir la grande distribution ou Google pour essayer de contester une décision, essayer de demander une explication à un service. On va vite se retrouver dans des grands trucs très impersonnels ou juste pas de réponse du tout. Le dernier pôle, après donc la sensibilisation et les alternatives, c'est le pôle formation. C'est comme si on invitait les gens à jardiner avec nous pour pouvoir le refaire chez eux, mais plus tard. Donc ça s'applique aux étudiants et aux étudiantes qui rejoignent Picassoft et donc apprennent la technique, donc l'aspect vraiment informatique qu'il y a derrière, mais aussi au travers des API, donc les activités pédagogiques d'intersemestre qu'on mène depuis 4 ou 5 ans, donc là qui sont plus... plus pour viser d'apprendre à se libérer un petit peu des grands géants du numérique et de faire autrement. Et d'ailleurs, je le précise quand même, c'est accessible, y compris à des non-GI, sans difficulté. Bon, pour raccrocher les wagons avec l'ingénierie, je voudrais montrer dans la fin de cette présentation, dans la suite, comment ce que porte Picassoft, de mon point de vue, donne des pistes pour répondre à la question « qu'est-ce que c'est une ingénierie qui serait engagée ?» ou, dit autrement, comment incarner de nouvelles manières de faire de l'ingénierie. Alors, d'abord, l'aspect petite échelle de ce que j'ai présenté n'est pas subi chez Picassoft. Nous, on n'a pas envie du tout de grandir et de devenir très utilisé par tout un tas d'universités, de gens à travers la France. Et je pense que l'approche localiste, c'est une clé pour repenser l'ingénierie. J'imagine qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord pour honnêtement des bonnes raisons, mais bon, voilà, moi, dans mon coin, c'est ce que j'imagine et on peut en discuter. Ce genre d'alternative locale, à petite échelle, elle a une qualité que je trouve très, très grande par rapport aux solutions très centralisées, gérées par une même entité, c'est qu'elles sont très résilientes et elles sont très adaptables. Je vous donne un exemple. En 2020, il y a un petit virus qui bouleverse d'un seul coup l'enseignement autour de la planète et on se retrouve quasiment du jour au lendemain, notamment autour du confinement, à devoir faire l'enseignement à distance. Et à l'époque, l'intégralité des services centralisés, à un moment ou un autre, donc Zoom, Google Drive ou Office 365, vont connaître des ralentissements pendant plusieurs jours, voire des indisponibilités. Et je pense que déjà, pour réussir à servir un peu en tout temps toutes les requêtes autour de la planète, leur surplus en termes de nouveaux data centers est juste colossal, parce que le fantasme de vouloir maintenir une disponibilité quasi parfaite sur des millions d'utilisateurs, ça demande une débauche de moyens qui est vraiment dramatique et qui est bien loin de l'idée que, en fait, en centralisant, on va réussir à tout optimiser. Et alors, tandis qu'en France, il y a un collectif, le collectif duquel fait partie Picassoft, c'est les Chatons, c'est collectif d'hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et du coup, ça se retient bien, Chatons, on arrive à attirer pas mal de gens avec ça. Qui va monter un service entraide.chaton.org, qui est toujours en ligne aujourd'hui, c'est Chaton au pluriel. Et cette plateforme propose tout ce dont on peut avoir besoin pour l'enseignement à distance, de la visio, de l'écriture collaborative, de la discussion. En fait, l'astuce, c'est qu'il suffit de cliquer sur le service dont on a besoin et ça va nous emmener chez un chaton, mais un des 100 chatons, on va dire, qui existent en France, donc une des 100 structures qui composent le collectif. Et donc l'idée, c'est que ça répartit automatiquement la charge et que si jamais il y a un chaton qui tombe, qui marche plus, qui a une indisponibilité, bah en fait en attendant on peut retrouver 99 autres qui fournissent le même service. C'est ça un peu l'avantage par rapport à l'approche très centralisée où une erreur ou quelque chose qui tombe va en général faire tomber le reste. Ça se nuance mais pareil, je vais laisser ça pour les questions s'il y en a. À l'UTC, nos services, nous, ils ont pris un pic d'utilisation avec plus de 3000 inscriptions, mais pareil, on a pu réagir assez vite, et surtout parce que ce n'est pas des gros volumes, quoi. On n'a pas pris 3 millions de personnes d'un seul coup, et donc bah, nécessairement, c'était beaucoup plus facile de réagir, et une partie de la communication autour des UV, de l'aide des étudiants, etc., c'est redirigé sur Mattermost, et puis ensuite, y a d'autres gens qui sont... Enfin, peut-être que la DSI a mis en place des trucs, mais voilà, en tout cas, ça a été assez complémentaire. Bref, le message que je veux faire passer, c'est que de petites solutions locales qui sont d'une manière ou d'une autre reliées entre elles et qui forment un maillage territorial où à chaque fois, chaque solution va être bien adaptée au milieu dans lequel elle est implantée, de mon point de vue, seront toujours plus résilientes que des grosses solutions globales. Voilà. Donc forcément, ça veut dire qu'à l'échelle locale, que ce soit dans le domaine de l'informatique ou autre, hein, dans le domaine de l'urbain, mêlé à celui de la mécanique, du GP, je pense qu'on va développer des compétences spécifiques qui ne pourront pas être toujours reproduites à l'identique ailleurs, qu'on aura moins de mal à construire des espèces de modèles qu'on plaquera sur tout ce qui ressemble à un problème partout. Ça veut dire qu'on ne peut pas apprendre à l'avance tout ce dont il y a besoin et qu'on a besoin d'aller sur le terrain et de s'adapter, voire même de faire des choses qu'on n'avait jamais faites et qu'on ne refera jamais pour éviter cette dépersonnalisation complète des grands outils. Je pense que cette approche, elle se rapproche un peu de la philosophie low-tech, même si d'emblée, le numérique est exclu des low-tech en tant que tel, de par les procédés de fabrication et la miniaturisation et la quantité énorme d'acteurs qui sont nécessaires pour ne serait-ce que faire un petit circuit imprimé. Mais, étant donné que le numérique va vraisemblablement continuer d'exister et qu'on va avoir un héritage colossal, eh bien, je pense que c'est intéressant, connaissant ces procédés de fabrication et ayant conscience de ce qu'ils impliquent, de se dire qu'on aura toujours, en tant qu'ingénieur, des choix à opérer et que certains, comparativement, mèneront à des outils techniques qui sont plus locaux, plus appropriables, plus respectueux et parfois peut-être même à pas d'outils du tout. Et à l'UTC, je crois qu'on parle, en tout cas pour désigner cette application de la philosophie low-tech à des domaines pas low-tech comme le numérique, de low-techisation. Et ça me semble être une approche assez féconde, pas que dans le domaine du numérique. Donc, c'est des pratiques qui s'opposent pas mal à certains apprentissages en GI, mais aussi dans d'autres branches. Et aussi, une chose qu'on entend parfois, en tout cas que moi j'entends, c'est que les approches locales, à petite échelle, elles fonctionnent moins bien que les autres approches. Et typiquement, nous, Mattermost, c'est vrai que comparativement, on pourrait dire que ça marche moins souvent bien, hors contexte exceptionnel comme le Covid, que Discord, Slack ou que sais-je. Et en fait, moi j'aimerais argumenter que le fait de fonctionner moins bien, c'est quelque chose qui est désirable et qu'il ne faut pas chercher à éliminer. Et que je pense que ça, c'est quelque chose de difficile à entendre pour des ingénieurs qui, en tout cas traditionnellement, cherchent à optimiser tout ce qui peut être optimisé et à éliminer le maximum de friction. Dans l'utilisation des choses, quitte à rajouter beaucoup de techniques pour faire du contrôle, pour vérifier que les choses fonctionnent bien comme elles sont censées fonctionner. Or, en fait, je pense qu'éliminer les frictions, donc les frictions à l'utilisation, quelque chose qui ne marche pas pendant une après-midi, par exemple, ça va nécessairement conduire à utiliser des technologies qui sont ultra high-tech ou des systèmes de supervision complexes. Un exemple, c'est que nous, si on veut détecter une panne sur nos services, déjà, ça veut dire qu'il faut qu'on le fasse depuis un autre endroit que le lieu de la panne, parce que s'il est en panne, il ne pourra plus détecter grand-chose. Et ensuite, il faut que d'une manière ou d'une autre, ça puisse nous alerter assez rapidement. Donc c'est forcément via, des notifications, quelque chose sur notre téléphone. Donc il faut qu'on ait un téléphone. Enfin, en fait, la supervision, ça implique tout un système socio-technique qui va, en fait, pas forcément en ordre de grandeur être si intéressant que ça si on accepte qu'on puisse ne pas avoir accès à des documents pendant une demi-journée de temps à autre. Et en tout cas, de mon point de vue, il faudrait qu'on réussisse à abandonner la disponibilité totale des choses, le fonctionnement sine qua non des choses pour concevoir une autre ingénierie. Je ne crois pas qu'on puisse avoir les mêmes garanties de disponibilité permanente tout en étant low-techisé. J'ai l'intuition que ça va être assez difficile. Et en fait, je pense que vouloir faire ça, c'est un peu un exemple classique de technosolutionnisme où on cherche à solutionner un problème qui n'est pas forcément technique par une solution technologique. Alors bon, ici il y a deux points. Le premier, c'est l'approche technique avec un système de supervision. On pourrait juste se dire que en fait, le système de supervision, ça va être les gens, et que c'est les gens, quand ils se rendent compte qu'il y a un problème, qui vont contacter Picasoft, parce qu'en fait, on est suffisamment à petite échelle pour que on puisse connaître humainement des gens qui sont chez Picasoft, et puis il leur dira, le service, il a crashé, est-ce que tu pourrais pas regarder ? Bien sûr, ça nécessite d'avoir un téléphone et ce genre de choses, mais aussi, on peut juste se croiser dans un couloir, dans Compiègne. Et donc, ça résout d'emblée le besoin d'avoir des trucs un peu industriels pour que ça marche tout le temps à 100%. Et aussi, oui, comme je l'ai dit, ça serait plus considérer que ce n'est pas un problème de ne pas avoir accès à quelque chose pendant 3 heures. Et j'ai l'impression que c'est justement cet aspect humain que les technologies industrielles en général cherchent à éliminer. Bon, c'est très lié aussi au modèle de société qui est proposé, qui est vendu. Et c'est le sens de l'industrie telle qu'on la connaît, notamment dans le numérique. On va avoir des algorithmes de recommandation qui sont censés se substituer à ce que les gens pourraient nous recommander, mais pour que, en fait, on ait juste besoin de connaître l'historique de quelqu'un pour lui faire des recommandations. Les livraisons ultra rapides, où on n'a plus besoin d'aller parler à des gens pour acheter quelque chose. On a ces data centers massifs de Google et autres, où tout est en triple, en quadruple, aux quatre coins du monde, pour que nos photos ne puissent être accessibles partout. Mais du coup, cette fluidité et cette disponibilité, elles ont un prix, et c'est celui dont j'ai parlé dans la première partie de cette intervention. Et donc, l'alternative qu'on propose, c'est à mon sens ce que devrait proposer toute ingénierie engagée, c'est une alternative qui n'est pas seulement technique, mais qui dessine aussi des solutions humaines, extra-techniques, de gouvernance collective, par exemple, ou d'aide en pair à pair. Donc, en résumé, on a envie que l'ingénierie renforce les rapports sociaux et la solidarité plutôt que de vouloir s'y substituer. Pour terminer, ce sera plus court que les deux autres parties, plutôt une espèce de conclusion, ouverture sur Picasoft, UTC, mes derniers takes. Donc, Picasoft, à mesure que sa partie technique s'est mise en place et stabilisée, on a eu de moins en moins d'étudiants et d'étudiantes qui ont été intéressés. Donc, pourtant, il restait pas mal de choses à faire, mais c'était essentiellement de la maintenance. Donc, l'infrastructure informatique, elle était en place. Il fallait seulement en prendre soin en la faisant doucement évoluer en fonction des nouveaux besoins qui émergeraient. Mais pour l'heure, cette pratique de maintenance et du soin, elle est encore marginale en ingénierie, qui valorise énormément l'innovation, la recherche de nouvelles solutions, au point où ça en devient parfois caricatural. Et en informatique notamment, tout va très très vite, il y a des nouvelles technologies qui sortent chaque jour, et il y a une espèce de pression à se mettre à la page, à pas avoir quelque chose de vieillissant, sans jamais se dire qu'en prenant soin correctement des systèmes, le côté vieillissant, ça ne fonctionne pas comme une articulation, une liaison qui serait vraiment physiquement abîmée. Et je ne sais pas si un jour il y aura une espèce d'ingénierie du care ou de la maintenance, mais ça, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire sans pour autant renoncer à ce qui intéresse les gens dans l'ingénierie. Plus généralement, la catastrophe climatique et écosystémique en cours, ainsi que la raréfaction des ressources, devrait vraiment nous amener à concevoir cette nouvelle ingénierie qui fait durer ce qui existe déjà, voire la démantèle. Et à l'UTC, donner un sens à l'innovation, je pense que ce serait d'abord arrêter de vouer un culte à ce qui est nouveau et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver l'existant. Mais en tout cas, par rapport à il y a quelques années, il y a beaucoup d'initiatives qui ont fleuri à l'UTC. Il y a les UVIS, les listes d'étudiants et étudiantes engagées, le label IS, etc. Et à chaque fois, c'est une conjonction d'étudiants et d'étudiantes, du tissu associatif et de profs engagés qui a poussé à une transformation institutionnelle qui est souvent plus lente. Moi, mon rêve, ce serait que l'UTC, dans son intégralité, bifurque, comme on dit, de façon à être sérieusement utile pour l'avenir qui nous attend. Mais bon, en attendant ce qui n'adviendra peut-être jamais, pour moi, un premier message à retenir de cette présentation, c'est que, contrairement à ce que fait dire le langage, être ingénieur, c'est pas un métier, c'est surtout et avant tout un diplôme. Et en fait, avec un diplôme, on a des compétences, dites compétences d'ingénierie, mais qui en fait sont des compétences extrêmement larges, qui peuvent toujours servir à autre chose, particulièrement dans la mesure où à l'UTC, on n'est pas surspécialisé techniquement, on a la chance d'être dans une école qui est assez généraliste. Et la deuxième et dernière, c'est que, et ça je pense que c'est vraiment un truc qu'il faudrait réussir à entendre dans le domaine de l'ingénierie, de la science plus généralement, c'est que la neutralité n'existe pas. On ne fait pas un métier où on peut se permettre d'être neutre. La neutralité, pour moi, j'entends aussi dans neutralité un genre d'apolitisme. Pour moi, c'est une fable confortable qui veut seulement masquer la réalité des systèmes dominants dans lesquels on est inséré, le néolibéralisme, le capitalisme, le néocolonialisme, etc. Être neutre, c'est approuver et renforcer ces systèmes. Je pense qu'on ne peut pas tenir le fait de dire que comme on s'est laissé porter et qu'on n'a pas pris position, bah finalement, on n'est pas responsable. Pour moi, c'est une approbation directe et agentive, au contraire, de ces systèmes-là, même si on n'en a pas forcément conscience et que, bah bien sûr, une fois qu'on a discuté, moi aussi, à un moment, j'ai pris conscience de certaines choses. Avant, j'étais pas au courant, ça faisait pas de moi une personne horrible, mais n'empêche que j'étais quand même, même sans le savoir, j'adhérais consciemment à des trucs sans me rendre compte que c'était pas bien, en quelque sorte, de mon point de vue. Moi, dans les laboratoires, on m'a par exemple dit, à l'époque où j'y travaillais, qu'un système de vision avec de l'intelligence artificielle qui était destiné à équiper des soldats, bah, c'était neutre, parce que nous, dans les laboratoires, on faisait une partie technique, scientifique, qu'on allait publier, et donc que, quelque part, on ne prenait pas vraiment position et que ça dépendrait de ce qu'on en ferait après coup. Et c'est un peu, quand on dit oui, bah, ça dépend comment on l'utilise, c'est un peu comme si la recherche et l'invention des choses étaient extérieures à la société. Donc c'est plus confortable de se laisser porter, mais je pense qu'on est plus en paix avec soi-même à la fin quand on s'est posé la question « Quelle société se dessine à travers les choix que je fais ?» dans mon métier d'ingénieur, c'est pas évident, ça demande du courage, je pense, de politiser ses études, parfois face à certains profs, parfois face à certains camarades, et politiser aussi ses choix de stage, mais c'est en même temps très agréable, à la fin, de réussir à suivre sa boussole éthique et morale. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Quentin, pour ton intervention, qui était très claire, très instructive, et qui à la racine, au plus profond des enjeux du numérique, tout en dessinant des alternatives techniques, mais aussi sociales. Merci à toi. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ?
Bonjour. Merci beaucoup déjà pour cette intervention qui était très intéressante. Moi, j'ai une question au niveau donc, de Picasoft. Actuellement, quels sont les membres ? Qui en fait partie ? Est-ce qu'il y a des étudiants qui sont encore ? Et quelles sont, donc, j'ai compris qu'il y avait des actions de maintenance plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont faites par l'association ?
Merci beaucoup pour ta question. La première partie de la réponse, c'est qu'il y a un étudiant qui se balade, qui est encore membre de Picasoft, mais qu'aujourd'hui, c'est vraiment que des anciens, on va dire. Mon analyse, justement, c'est qu'on a commencé à avoir du mal à recruter à la JDA. Et après, les gens ne restaient pas vraiment parce que ce qu'on avait à proposer techniquement semblait pas très intéressant. C'est-à-dire que c'était un peu se former et apprendre à continuer à faire tourner l'existant. C'est quand même un coût assez élevé. Il y a plein d'autres assos plus fun, en gros. Et aussi, par ailleurs, parce que nous, on avait acquis une certaine expertise sur pas mal de sujets, et puis on faisait des conférences autour de ça. Mais du coup, c'est hyper dur, en fait, de rentrer dans une asso quand on n'y connaît pas grand-chose et de se dire « Ok, je vais monter une conférence ». Donc, en fait, on, voilà, on a un moment, on a un peu perdu le contact avec les étudiants. Donc aujourd'hui, on essaye quand même moins. Même si on continue, du coup, à proposer souvent des conférences dans des événements, des festivals, des trucs comme ça en France. À l'UTC, parfois, on fait des conférences, ça dépend un peu des semestres, mais on continue à être invité aux événements qui sont organisés par les étudiants. Là, on va participer au FIS qui vient. Et on a toujours les API. Ça, on continue quand même à faire des API, c'est un format assez sympa. Et là, on va ouvrir une nouvelle API qui portera plus sur les enjeux politiques du numérique, parce que c'est un peu plus nos thèmes. En fait, nous, pour finir, on est parti un peu de « oh là là, on nous voit de nous donner, c'est vraiment pas sympa, les méchants GAFAM », ce qui était du coup pas très politisé comme approche, pour aller vers une critique un peu qui ressemble à celle que j'ai faite. Voilà. Mais on aimerait bien avoir plus d'étudiants.
Merci. Et au niveau du type d'actions de maintenance qui sont mises en place, c'est par exemple, j'imagine que vous devez avoir des serveurs à vous, sur lesquels vous déployez les applications comme le PAD, le Mattermost et bien d'autres. Donc en fait, c'est peut-être réagir quand il y a un problème et prendre soin de comment ça fonctionne. Et puis après, ce sera plus sur les ateliers sensibilisation et formation que vous travaillez.
Oui, en rythme de croisière, c'est un petit peu ça. Donc, mais il y a toujours beaucoup de choses à faire au niveau des mises à jour. Essayer aussi d'avoir l'infrastructure la moins consommatrice possible. Essayer d'aider des gens aussi du collectif Chaton en hébergeant des trucs pour eux. Voilà, et en tout cas, on a un lien qui est assez fort avec le collectif d'hébergeurs dont j'ai parlé en France. Et en fait, on peut toujours réagir à des demandes, par exemple, qui émergeraient à l'UTC et qui ne seraient pas prises, on va dire, par la DSI, donc la Direction des Systèmes d'Information. En tout cas, on a toujours du monde qui est motivé et en capacité de faire des choses. Mais pour nous, l'objectif qu'on avait en lançant Picassoft est rempli à travers l'utilisation de nos services, et on est très content qu'il y ait plein de gens qui fassent exactement la même chose et qu'on ne soit pas une marque très visible. Et je pense que oui, à l'UTC, même il y a probablement plus de gens qui pensent que ça doit être un service vaguement hébergé à l'UTC et que qui marche pas très bien. Mais bon, du coup, c'est vrai que là, on perd un peu notre qualité de alternative à des services des gens du web, et j'aurais aimé qu'on arrive à le mettre plus en avant, mais le BDE a essayé avec une charte développement durable à l'époque, ils avaient appelé ça pour promouvoir l'utilisation de logiciels libres, mais c'était pas très publicisé. Enfin, en fait, c'est très difficile vu la quantité hyper hétérogène de profils à l'UTC de parler, de contacter tout le monde. Et pareil, ça dépend au sein de l'UTC. D'un côté, on a des partenariats avec Microsoft et des trucs Word, Office gratuits et plein de choses comme ça. Donc disons que le message n'est pas vraiment... Il n'y a pas une position claire. Et ça, je trouve que ça peut être sain aussi là-dessus à l'UTC. Pardon, j'ai un peu dérivé de ta question.
Et sinon, une dernière question, à quoi ressemble une journée dans votre peau, enfin dans le quotidien? Est-ce que vous travaillez que sur les sujets d'association ou encore dans des laboratoires aussi ou pas du tout?
Moi, je suis à la fois d'un côté, je fais... Oui, merci, hein, c'est vrai que c'est un peu en rapport avec le cycle de présentation, ces questions-là. Donc, je suis à mon compte... je travaille à distance pour des associations, notamment. Donc là, c'est aussi de la... On va dire, je prends soin de leur infrastructure numérique. Et donc, c'est des tâches qui vont être assez spécialisées où je ne m'ennuie pas parce que chaque problème qu'on me remonte ou chaque nouvelle envie, besoin qu'on me présente, elle est liée à... l'association, aux personnalités des gens qui sont dans l'association. Donc là, en l'occurrence, c'est une association qui anime une communauté d'utilisateurs et d'utilisatrices autour d'un logiciel libre. Donc on reste quand même un peu dans le monde du numérique, mais j'ai des amis qui sont aussi passés chez Picassoft, beaucoup en fait, et qui sont aussi à leur compte et qui accompagnent par exemple des associations, ça peut être de tout et n'importe quoi, dans le fait d'utiliser des logiciels libres, hébergés localement, avec toutes les bonnes propriétés quoi, que j'ai énoncées plus tôt, par rapport à ceux des géants du numérique. Donc voilà, ça c'est très chouette parce que ça règle aussi un peu le problème d'isolement qu'on peut avoir dans les métiers du numérique et ça le réancre dans le territoire, un peu dans la réalité. Donc par ailleurs, je donne des cours à l'UTC, donc ça me plaît vraiment beaucoup. Et pour l'association, bah en fait, on se voit avec les membres et on mène des projets ici et là avec des petits groupes de travail. Donc ça représente une part, une petite part finalement. Mais voilà, je participe aussi à d'autres trucs libres. Mais c'est, disons que je pense que j'ai la chance en GI parce que c'est pas un truc qui peut être facilement convertible dans d'autres branches, c'est de pouvoir bosser à distance et donc avec, de manière un peu morcelée. Donc c'est à la fois précaire en termes de statut, mais c'est vrai que ça me plaît bien. Voilà.
Oui, j'avais une question sur les modalités de fonctionnement de l'association et notamment ce qui concerne la prise de décision. Je crois que vous avez mis en place un système tout à fait original de prise de décision, à la fois sur le fonctionnement, mais aussi sur les choix techniques, sachant que les deux sont très liés. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ?
Oui, merci, merci pour ta question. Il y a quelques années, on a été confronté enfin, en tout cas, il y a eu un conflit entre le responsable technique, qui avait donc le pouvoir technique sur les machines de Picassoft, qui pouvait y entrer, pas y entrer, ce genre de choses, et un autre membre de l'association qui avait pas assez de droits pour faire ce qu'il voulait faire, quoi. Et ce conflit, il a en tout cas été très, très désagréable en AG et ça conduit au départ de personnes. Enfin, c'était un moment de crise et donc on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on voulait comme système de décision et bon, en gros, on a fait un système de décision qui s'appelle la to-do-cratie. To-do parce que c'est à la fois une référence à la do-ocratie, donc un peu c'est la personne qui de fait décide, plutôt que des gens qui doivent décider un peu en amont, dans un espèce de CA déconnecté des réalités du terrain, ce qui peut se faire ou pas se faire. Et tout doux, aussi parce qu'on essaie d'être gentils les uns les unes envers les autres, donc d'où DOX. Et en fait, en gros, l'idée, il y a plein de petites subtilités, mais on s'en fiche, c'est qu'on sépare les actions en deux catégories, les actions ordinaires, qui sont facilement réversibles, mais sur lesquelles tout le monde n'est pas forcément d'accord, qui peuvent être menées par n'importe qui est membre de l'association, juste en informant les autres gens, et puis on peut y aller. Et en fait, si jamais il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, c'est à elle que revient la charge d'organiser un vote et de montrer que, par exemple, une majorité de gens n'est pas d'accord avec l'action, ce qui en pratique n'arrive quasiment jamais. Ce mode de fonctionnement-là, il permet d'éliminer les blocages qui sont juste dus au fait que y a quelqu'un qui aime bien donner son avis et qui est souvent dans un esprit de contradiction, mais en fait que ça change pas grand chose à sa vie que ce soit l'action soit menée ou non. Et les actions extraordinaires qui là concernent des choses qui sont un peu engageantes pour l'association, dissoudre l'asso, dépenser de l'argent, beaucoup d'argent, ce genre de choses. Et donc là ça se fait quand même comme assez traditionnellement à la majorité absolue, mais ça pourrait se faire au jugement majoritaire, sans problème, puisqu'on ne l'a pas fait, encore. Avec juste une petite originalité, que si il n'y a pas assez de votes au bout d'une dizaine de jours, mais que personne s'y est vraiment frontalement opposé, bah on peut faire l'action quand même. Donc voilà, l'idée c'est de déverrouiller un peu les freins à l'action, tout en permettant pas qu'il se passe une catastrophe ou quelque chose d'irréversible. Et ça marche très bien. Ça fait plusieurs années qu'on est là-dedans, y compris avec des nouveaux membres. Donc voilà, en gros, un membre de Picassoft est membre qu'il demande. Donc vous voulez être membre ou vous l'êtes, vous avez juste à nous dire « Ah, je veux être membre » et c'est terminé, on n'a pas de cooptation. Et les seules obligations des membres, c'est de donner leur avis périodiquement. Et ça fait bien tourner l'asso. Voilà.
Merci beaucoup Quentin, merci pour ton intervention, ton savoir, ton analyse sur les enjeux du numérique et ce partage d'expériences qui mêlait techniques et sociales et enjeux sociaux, c'est très important. Et on se retrouvera demain pour la conférence dans le cadre des Journées nationales de l'ingénierie et de la Journée mondiale de l'ingénierie pour le développement durable, avec deux collègues du génie des procédés, comment la recherche technologique de l'UTC peut contribuer à certains enjeux environnementaux. Merci beaucoup.
Cette conférence a été enregistrée le 6 mars 2025 à l'Université de technologie de Compiègne, avec le concours de Christophe Menu pour les moyens techniques, une conférence organisée par la Direction à la transition écologique et à l'engagement sociétal de l'UTC, Valentin Legauche et Isabelle Caillou. Retrouvez ce programme à la demande sur graphite.net.